Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Gagnon et je suis éditrice chez Québec Amérique. Je vous souhaite la bienvenue à cet épisode de Chez l'éditeur. Aujourd'hui, je vous invite à assister à ma plus récente rencontre avec l'auteur et journaliste Guy Gendron. En tant qu'éditrice littéraire, j'ai l'habitude d'échanger avec des auteurs sur l'écriture d'un roman ou d'une nouvelle. Dans ce cas-ci, Guy et moi avons parlé de son plus récent livre qui n'est pas un roman, mais plutôt une biographie intitulée « Le meilleur des hommes ». Ce livre très particulier raconte l'histoire de Guy Bieler, un espion canadien méconnu qui a marqué l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose d'écouter ce qu'il m'a dit sur son livre et sur son travail d'écriture quand nous nous sommes assis ensemble à une table du café chez l'éditeur.
Je me rappelle la première fois où tu m'as présenté le projet, puis on parlait de la tresse que tu avais tissée entre les trois narrations, puis cette tension-là entre le récit et finalement la nécessité de raconter une histoire vraie. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi ou est-ce que ça a été difficile d'utiliser ce mode d'écriture-là pour le mettre au service d'une histoire vraie, finalement?
Ça a demandé un peu d'imagination parfois. Il y a des événements, on sait, qui se sont produits à telle date. On a un certain nombre de détails, mais il y a des trous. C'est comme un casse-tête dont il manque certains morceaux. Et parfois, pour raconter l'histoire, on doit extrapoler certains morceaux. La base est réelle, mais tu sais, dans le détail, qu'est-ce qu'ils se sont dit vraiment? Là? Tu sais, si on veut, pour le raconter, on veut mettre un échange. Là. Un tel a dit ça, etc. Bon, évidemment, personne, il n'y avait pas de sténo dactylo pour prendre des notes à ce moment-là. Tu sais.
Ni de micro caché.
Ni de micro caché. c'est évident que toute biographie...
Emprunte,
sa part d'inventivité. Tu sais. C'est Jean-François Lisée qui disait, un journaliste il écrit 10% de ce qu'il sait, un biographe 110%. Donc, c'est sûr qu'il faut, coller différents morceaux. Il faut,
est-ce que c'est angoissant ou c'est stimulant comme travail?
J'avoue avoir vécu une certaine angoisse là-dessus parce que j'ai ma formation de journaliste qui dit on n'en rajoute pas, mais en même temps, je comprends que le récit demande parfois qu'on mette des trucs en contexte et puis qu'on se mette dans la peau du personnage, puis comment est-ce qu'il aurait réagi, comment est-ce qu'il aurait dit, j'essaie toujours de m'en tenir à ce qui est crédible et ce qui est vraisemblable. Mais c'est dans le détail, tu sais, c'est pas... J'ai pas inventé des opérations qu'il aurait fait ou qui ont pas été rapportées ailleurs juste pour dire on va lui donner un rôle glorieux puis on va lui faire certains trucs, tu sais. Tous les événements qui sont là se sont produits, mais... comment proche il s'est approché de tel endroit, tu sais. Je peux juste le présumer, tu sais.
Ouais.
Combien de personnes il y avait là à ce moment-là? Ils étaient un groupe de 6 ou 2, tu sais. Alors, on n'a pas tous les détails quand même, donc il faut...
Tu disais qu'il y avait des témoignages aussi qui parfois se contredisaient, puis comme ce sont des gens qui sont pratiquement tous décédés, d'écrire une histoire qui s'est déroulée il y a... aussi longtemps quand même,
oui.
c'est beaucoup de temps s'est écoulé, ça aussi c'est un défi supplémentaire qui nécessite de peut-être tisser des liens, ajouter quelques petits bouts de laine pour que la courte pointe se tienne.
Et parfois il faut choisir, il y a différentes versions, tel événement est arrivé le 13, dans un autre c'est arrivé le 14, bon, c'est pas très grave, là, c'est un détail, mais il y a des récits qui ont été faits, il y a des gens qui ont raconté leur histoire à droite, à gauche, il y a des livres qui ont été publiés tout de suite après la guerre ou quelques années plus tard. Puis on voit que le récit évolue. ça fait 25 ans que je travaille sur ce livre-là. C'est une longue grossesse.
C'est une très longue grossesse.
Oui, oui, oui.
C'est une très longue grossesse. C'est un processus qui s'est échelonné depuis la première entrevue.
1994, je faisais un reportage. C'était à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement de 1944, donc 1994. Et je faisais un reportage sur un Canadien français de la Saskatchewan qui avait été recruté par les services secrets britanniques pour servir d'espion en France, dans la France occupée. Et puis, dans le cadre de ce reportage-là, j'étais allé à Londres. Les services britanniques étaient évidemment là. Puis, il y avait encore, elle était encore vivante, l'adjointe du patron du service d'espionnage, Vera Atkins, était là. Puis elle me dit, pourquoi vous faites un reportage sur ce gars-là? Pourquoi vous en faites pas un sur Guy Bieler? Je lui dis, qui? Et là, elle était furieuse. Quoi? Vous connaissez pas Guy Bieler?
Un outrage.
Non, je devrais. Et pourquoi? Puis en revenant de cette tournée-là, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être quelqu'un, ce Guy Bieler. Je comprends pas pourquoi elle a eu cette réaction-là. Puis Bieler, il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est pas un nom familier ici.
Absolument.
Alors,
pas.
J'ai pris le bottin téléphonique, j'ai regardé, il y avait un Bieler dans la région d'Ottawa, c'est là où j'habitais. J'ai appelé, j'ai dit, connaissez-vous Guy Bieler? Puis la dame me dit, ben c'était mon père et c'est mon fils. Et de là, c'est parti. Tout de suite, je me suis dit, il y a une histoire là...
Mais depuis 25 ans, donc depuis que ce projet-là est en cours, j'imagine que nombreuses sont les personnes qui font montre de la même ignorance par rapport à Guy Bieler. Moi, j'avais jamais entendu ce nom-là. Personne ici à qui on en a parlé connaissait ce nom-là.
Mais dans le nord de la France, là où il a opéré dans la clandestinité, il y a trois villes et villages qui portent son nom, dont deux pour qui c'est la rue principale.
Oui, donc vraiment ici, on est à la traîne.
À Montréal, il n'y a pas une rue Bieler, il n'y a pas une plaque Bieler, il n'y a pas un statut, il n'y a pas une place. On ne le connaît pas ici. Or, ça a été, et pour les gens et pour les Français dans cette région-là, ça a été le plus grand espion. Pour les patrons, j'ai découvert ça par la suite, pour les gens qui dirigeaient le service d'espionnage britannique, ça a été le plus grand qu'ils ont eu, le plus grand espion qu'ils ont eu. Pour les Allemands, ça a été l'espion qui s'est démarqué de tous les espions qu'ils ont attrapés pendant la guerre et qu'ils ont exécutés par la suite. Il y en a plus d'une centaine. Il est le seul à qui ils ont accordé une garde d'honneur au moment de son exécution.
Mais c'est pas rien.
Il y a quelque chose
c'est
là.
C'est pas rien. Est-ce que tu entretiens l'espoir, le rêve que ça participe vraiment à le sortir de l'ombre? Est-ce que c'était une de tes intentions en faisant ce livre-là?
Oui. Quand j'ai rencontré le personnage et j'ai rencontré sa fille aussi, parce que la démarche de la fille est importante. Dans le livre, c'est pas juste l'histoire du gars qui est parti à la guerre et qui est mort. Il y a une histoire assez exceptionnelle, c'est-à-dire que, c'était pas un soldat de nature, c'était un intellectuel, un spécialiste. Il donnait des conférences sur Proust à Montréal.
C'est pas le soldat classique,
c'est
non.
C'est pas le soldat classique. Il avait presque 40 ans. Il était marié, père de deux enfants, aveugle d'un œil. L'armée aurait dû le refuser. Il n'aurait pas dû être enrôlé dans l'armée.
Il s'est faufilé dans les mailles du filet.
Oui. Et il a insisté pour aller en France, pour aller combattre. Puis au moment où il a été parachuté en France occupée, il s'est fracturé la colonne vertébrale. Les Britanniques ont insisté pour le ramener. Il a refusé.
Oui, c'est tout un personnage.
C'est vraiment un personnage. Et l'histoire de sa fille, elle avait 3 ans quand son père est parti. Elle n'a aucun souvenir vivant de son père. Mais toute sa vie, elle a essayé de retracer son histoire. Et c'est difficile parce que c'est un agent secret. Donc, ça ne laisse pas de traces par définition, tu sais. Alors... toute sa vie, elle a fouillé dans les archives, contacté différents ministères, etc. Elle, à sa retraite, elle a décidé d'apprendre l'allemand pour pouvoir aller dans le camp en Allemagne où il est exécuté.
En fait, cette histoire-là est stupéfiante de tellement de façons qu'on ne peut qu'être fascinée par ce sujet.
Et moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je tanne mes amis, parce que quand je leur en parle, t'as vu tantôt en te parlant, j'ai eu le moton.
Mais à chaque fois qu'on en parle, c'est quelque chose qui vient te chercher.
Ça fait 25 ans que ça vient me chercher, cette histoire-là. Je me dis, il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et dans ce qu'il a fait lui, et dans la démarche de sa fille pour retrouver son père. Et le livre, c'est comme une tresse. À chaque chapitre, parfois c'est elle qui parle, parfois c'est lui qui parle, parfois c'est le narrateur qui replace les morceaux. Et c'est autant, il y a autant de chapitres où c'est elle qui parle, où c'est la fille que le père.
C'est très audacieux quand même de donner, ben non pas de donner la parole, mais de s'approprier la parole d'une femme qui est toujours en vie.
Qui est toujours vivante. Mais
comment
mais,
ça s'est passé?
Mais avec sa permission, d'abord elle m'a raconté sa démarche. Tout de suite, ça m'a remué. Je me suis dit, ben à l'époque, il y a 25 ans, j'avais écrit un scénario de film avec ça. Okay. Je me disais, moi, ma vie, ça a été journaliste télé, puis je me disais, je peux pas faire un reportage télé là-dessus. Tout le monde est mort, c'est trop loin, etc. On peut pas avoir de témoignages. Mais c'est une histoire éminemment visuelle. Il y a un parallèle avec James Bond. D'ailleurs, celui qui a écrit la série James Bond, c'est beaucoup inspiré du travail du service d'espionnage britannique de l'époque et même, fort probablement, de Guy Bieler. Quand Vera Atkins, l'adjointe de Buckminster, dit de Bieler, c'était un homme parmi les garçons. Les autres, c'était tous du menu fretin. Lui, tu sais, puis
il avait un statut très particulier.
Elle battait des cils en parlant de lui. C'est Miss Moneypenny dans James Bond, tu sais, qui est aveuglée par l'agent 007. Là. C'est le même type de fascination, c'est ça, d'admiration. Alors, moi, je le voyais comme un film à l'époque. T'sais. Puis avec le temps, l'histoire s'est enrichie. Tu sais, Bieler, c'était, aux yeux du patron des services d'espionnage, c'était le meilleur des espions qu'ils ont eu. Aux yeux des gens, des résistants dans le nord de la France, ça a été le plus grand résistant qu'ils ont eu. Aux yeux des Allemands, ça a été celui qui a sorti du lot et à qui ils ont réservé une aide d'honneur au moment de l'exécuter. Et ça a été long. Mais en 2014, l'armée canadienne, à la base de Kingston, en Ontario, a construit un édifice pour faire la formation des officiers de renseignement de l'armée, les espions canadiens. Et ce site-là s'appelle le Jardin Bieler.
Donc, il y a enfin sa reconnaissance publique, finalement.
Ça a été long. Oui. Mais au Canada, à Kingston.
Ouais, voilà.
Alors
ici,
que
on
le
pas
gars
suivi...
venait de Montréal, mais ici, on ne le connaît pas. Là. Ouais. Inconnu au combat. Ouais. Là, ouais.
Et donc, sa fille, finalement, a accompagné le processus.
J'ai eu plusieurs conversations, plusieurs échanges avec elle. Elle m'a donné accès aux documents familiaux, aux photos de famille, etc., aux notes. Parce qu'elle, toute sa recherche, toute sa vie, là, elle avait accumulé une quantité impressionnante d'informations. Elle a été la première lectrice du manuscrit. Elle l'a dévoré en 2 jours.
Ce qui est très bon signe.
Mais la deuxième journée, elle m'a dit, j'ai passé la journée à pleurer.
Ouais.
Et après, elle m'a dit, je fais des cauchemars. Parce que, évidemment, l'histoire finit pas bien. C'est pas un James Bond. C'est une vraie histoire. Et ça finit pas bien. Et là, je me suis dit, je vais laisser reposer la poussière. Et puis, elle a 82 ans maintenant, aujourd'hui. C'est une femme qui est en forme intellectuellement et physiquement. Donc, c'est pas juste l'histoire de Guy Bieler, c'est l'histoire de sa fille aussi qui rend toute l'histoire très contemporaine.
Est-ce que c'est ça, en fait? Est-ce que ça a été de trouver cette voie-là, la sienne de la petite fille pendant la majorité du récit, celle de son père aussi, parce que tu empruntes le jeu de Guy Bieler. Est-ce que ça a été long d'aboutir à cette forme-là? Est-ce que c'est ce qui fait que ça a pris 25 ans, finalement?
Oui, je savais pas comment raconter cette histoire-là. Pendant des années, je n'osais pas me mettre à l'écrire. Je savais pas comment le faire. parce que il y a une part de... Ça ferait un bon roman avec des noms inventés, mais c'est pas des noms inventés, c'est une vraie histoire, mais c'est une histoire de roman. Et puis...
Qui se lit comme un roman.
Ben merci, mais... et je me dis, un biographe peut quand même pas inventer des trucs. Comment je fais pour raconter? Je le savais pas. Puis quelqu'un m'a dit, pourquoi tu l'écris pas au jeu? Je dis, OK... j'ai pas pensé à ça, mais le jeu sera qui? Est-ce que ce sera sa fille? Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera moi? Et finalement, j'ai fait un mélange d'un peu tout ça. Il y a plusieurs jeux. Quand la fille parle, elle parle au jeu. Quand lui parle, il parle au jeu. Ma voix à moi est plus en retrait. J'assemble les éléments. Mais c'est comme une tresse. Donc, on alterne d'un chapitre à l'autre de différents jeux.
Qui fait la force du récit. Et aussi, pour moi, ça a été, comme éditrice, ça a suscité de grandes questions, justement, à savoir quelle est cette bête que j'ai entre les mains. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une bio? C'est un roman biographique? Où le classer? Là, on arrive au moment où, où le livre va faire le grand saut. Il va aller sur les tables en librairie. Puis on espère toujours aller... Ça, c'est nos considérations parce que, bien sûr, je me rappelle la première fois où on s'est rencontrés, à peu près exactement à cette table-ci.
Oui. Ouais.
Puis pour moi, il n'y avait aucun doute. C'était un super roman. Un super livre, en fait, un super roman. Tu vois?
Oui.
Je fais le lapsus, je dis un super roman. Un livre fascinant que j'avais vraiment hâte de mettre entre les mains de mon père. Puis je me suis demandé comment faire, comment je vais faire. Est-ce que je vais le mettre dans une collection littéraire ou je vais le mettre dans une collection de
bio? Je me rappelle que quelqu'un dans ton équipe l'avait lu puis s'était posé la question, est-ce que c'est vrai?
Est-ce que tout est vrai?
Il y avait l'impression que c'était un roman.
Ouais.
Et à la fin du livre, dans l'épilogue, je dis, cette histoire-là est vraie. C'est les noms qui sont là, c'est les vrais noms, les dates, les événements, c'est les vrais événements.
C'était une très bonne décision de le préciser, justement, pour que le lecteur sache que malgré le fait que ce soit parfois tellement impressionnant qu'on puisse penser que ça relève de la fiction, mais non pourtant.
Oui.
C'est bel et bien arrivé.
Oui, parce qu'il y aurait une tendance... C'est tellement over the top qu'on aurait tendance à dire, ben ouais, c'est romancé, ça se peut pas.
Oui, voilà.
Ça se peut pas que ce gars-là s'est cassé la colonne vertébrale à l'atterrissage puis qu'il a pas dit, je vais retourner avec ma famille là, qui m'attend au Canada, là, tu sais.
Oui.
Ben oui.
Puis de découvrir aussi, à la toute fin, de découvrir le sort de toutes les personnes qui croisent sa route pendant l'ouvrage. Et finalement, on apprend ce qui est arrivé à chacune d'elles.
Oui, ça j'y tenais aussi parce que, évidemment, dans son parcours de résistant, il croise différents personnages. Puis à la fin, ben lui meurt, mais qu'est-ce qui est arrivé des autres, tu sais? Puis je me dis, on les a comme abandonnés en cours de route. C'est des personnages, oui, secondaires d'une certaine façon, mais non, parce qu'ils ont joué un rôle historique, ils ont eu un courage aussi exceptionnel, tu sais. Alors, j'ai retrouvé mes personnages qui avaient été abandonnés en cours de route pour raconter ce qui leur est vraiment arrivé. Puis dans beaucoup de cas,
C'est tragique.
C'est tragique.
Oui, ben c'était une période... c'est une histoire finalement tragique, mais qui est très lumineuse finalement. On termine avec beaucoup d'admiration et de foi.
Puis c'est une grande histoire de pardon aussi, de tolérance.
Je te parlais de toutes mes grandes interrogations de l'autre côté de la clôture, à savoir biographie, roman. De ton côté, finalement, c'est un processus qui s'est fait au fil des ans. Cette bio-là, pour toi, c'est une bio?
Pour moi, c'est une biographie.
Ouais.
Mais dans la forme, justement parce que il n'a rien laissé derrière lui, il n'a pas été interviewé par des journalistes, il n'a pas pu écrire ses mémoires, un espion, ça laisse pas grand-chose derrière. C'est des témoignages à droite et à gauche. Et tous les gens à qui j'en ai parlé, qui l'ont connu, c'était... C'est un personnage hors norme. Tu sais, c'était un musicien, un philosophe, un gars qui faisait des conférences sur Marcel Proust à Montréal, alors que Marcel Proust était à l'index. C'était impossible d'acheter un livre de Marcel Proust au Québec. Alors, c'est vraiment pas le type qu'on imagine Rambo soldat. Tu sais.
Puis est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, on sent toute ta passion. Puis je sais que... Je suis certaine, en fait, que quand tu vas en parler dans les prochaines semaines, cette passion-là va passer encore. Est-ce que tu as mis le doigt sur la raison pour laquelle ça te fascine à ce point-là? À quel point ce personnage-là est venu te toucher d'une façon si particulière?
Ben, je suis père moi-même. Mon métier de journaliste m'a amené à partir à la guerre à certaines occasions, les deux guerres du Golfe, etc. Bon, et d'autres conflits au Moyen-Orient. Puis à toutes les fois, bon, on prend une chance, tu sais. Je suis parti avec mon petit dog tag dans le cou, là, comme les soldats, avec un badge,
hein?
Avec un numéro, là, pour qu'ils identifient le corps si ça tourne mal. Là,
mon Dieu, je savais pas que les journalistes aussi avaient...
Ouais. Alors, en laissant derrière moi mes trois filles, tu sais, bon. Alors, je peux juste être admiratif devant quelqu'un qui, lui, l'a fait pour vrai. Tu sais, moi, c'était... Comme journaliste, on est relativement sécure, on est loin du combat. C'est pour des périodes courtes, puis on s'en va pas au front, là, tu sais. Et alors, lui, il est plus qu'allé au front, là. Il est allé derrière les lignes ennemies dans la France occupée, là, tu sais, pour faire des opérations de sabotage... former des résistants, se cacher continuellement, alors qu'il était infirme, là, t'sais, après son accident au parachutage, là, il marchait comme le bossu de Notre-Dame, là, il était tout croche, il était pas capable de se tenir debout plus que 2 heures par jour, très souffrant, etc. Puis il a quand même tenu à aller jusqu'au bout.
Mais un des passages, plusieurs passages qui sont saisissants, mais peut-être que c'est cette perspective-là de la jeune fille qui n'a pas connu l'histoire de son père qui m'a touchée particulièrement. Mais ce moment où elle arrive à Saint-Quentin sans avoir aucune idée de ce qui l'attend, ouais, de ce que son père a réalisé, puis finalement... se fait accueillir à la gare par le maire, par une foule.
Mais je suis content que ça t'ait touché parce que c'est le bout que je trouve le plus difficile à raconter. Là. Je te dis que depuis 25 ans, j'en parle à mes amis, puis à toutes les fois, j'ai le moton. Là. Ce bout-là, pour moi, elle a 20 ans, elle vient de finir ses études à l'université. Elle dit, je vais partir avec un pack-sac sur le dos, je vais aller visiter l'Europe avant de me trouver un travail. Voilà l'occasion. Elle va à Genève parce que son père était d'origine suisse, donc il y a de la famille à Genève. Puis il y a un oncle qui lui dit, as-tu déjà entendu parler de Saint-Quentin, qui est une ville dans le nord-est de la France? Elle dit non, pourquoi? Elle dit, tu devrais y aller, là-bas ils connaissent ton père.
Est-ce que lui a laissé... Je me posais la question s'il a volontairement laissé planer le mystère. J'ai cru comprendre que oui, parce que c'est lui qui avise les officiels à Saint-Quentin de son arrivée.
Oui, c'est ça. Alors, elle dit, bonne idée, je vais y aller. Elle prend le train, puis lui, son oncle, contacte quelqu'un à Saint-Quentin pour lui dire, la fille du commandant Guy s'en vient. Et là, quand elle arrive à la gare... C'est la fête au village.
Oui, c'est le grand titre dans les journaux.
La première page du journal, la fille du commandant Guy vient faire un pèlerinage.
Puis elle ne comprend pas du tout ce qui se passe à la gare quand elle arrive. Non. Mon Dieu, il y a donc bien du monde ici. Je pensais que c'était une petite ville.
Exact.
Qu'est-ce qui se passe pour finalement réaliser que c'est pour elle? Extrêmement cinématographique, effectivement.
Oui, oui. Elle est reçue à l'hôtel de ville. Ouais. On lui donne des fleurs, les clés de la ville, you name it. Tu sais.
Ah ouais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tous les gens qui veulent lui remettre leur parachute, qui sont déployés
fou.
Tout le long du chemin. Ouais. Ah non, en tout cas, c'est difficile de s'imaginer les émotions qui ont dû... se précipiter pour elle qui découvrait
tout ça. En plus, l'alcool, parce que partout où elle allait, on lui donnait du champagne. Alors, elle avait l'impression de flotter complètement à un mètre du sol parce qu'elle ne savait pas ce qui y arrivait. Elle était bombardée de tous les côtés. Puis, tu sais, quand je te dis, dans cette région-là, il y a trois rues, la rue du commandant Guy, rue du commandant Guy Bielaire, rue du... Ils ont même nommé des rues avant de savoir c'était quoi son vrai nom, tu sais. Parce que dès que la guerre a fini, dès qu'ils ont été libérés, dans le village de Fonsomme, là où ils habitaient, sur la rue principale, ils l'ont nommé la rue du commandant Guy, mais ils ne savaient pas encore c'était quoi son vrai nom, tu sais.
Puis est-ce que tu sais pourquoi il y a eu si peu de reconnaissance de ce côté-ci de l'Atlantique? Pourquoi on a été aussi discret alors qu'on n'a pas tant que ça de héros à mettre de l'avant? Ça m'étonne, en fait.
Moi aussi, mais j'imagine qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plein de héros. Il y avait plein de gens qui avaient fait des choses exceptionnelles, tu sais, qui ont libéré la Hollande, puis des héros vivants qui pouvaient en parler, tu sais. Bielaire, il n'était pas vivant, il n'était pas là pour en parler. Puis par définition, comme c'était des services secrets, tu sais, tous les documents... Tous les messages qui avaient été envoyés à Londres, Londres les a détruits, puis ça a vraiment pris beaucoup de temps à percoler, cette histoire-là. Puis au moment où ça percolait, ben l'Europe était en train de se reconstruire avec l'amitié franco-allemande, etc. Puis on voulait peut-être pas faire revivre les mauvais souvenirs. Puis alors, finalement, la page a été tournée, tu sais. Mais ce gars-là serait un Américain, on serait au troisième remake du film. Tu sais, j'ai la conviction que... Oui.
C'est ça. Puis il y a certaines choses aussi que avoir vu dans un film, je suis pas certaine que j'y aurais cru de la même façon où là, j'ai été plus réceptive à cette information-là. Je pense, entre autres, quand on décrit toutes les initiatives audacieuses qui sont prises par les services secrets anglais pour s'allier les gens du théâtre, s'allier les gens qui fabriquaient des accessoires.
Ah oui, les gadgets, t'as aimé ça, toi?
Moi, c'est parce que j'ai jamais pensé que c'était vrai.
Les gadgets de James Bond?
Les gadgets, sans aller jusqu'à James Bond, mais vraiment les classiques, la petite capsule de cyanure dans le talon de chaussure.
Bien sûr, chaque agent du SOE avait une capsule de cyanure dans son talon.
Le foulard avec les codes secrets, la bouse de le crottin de cheval qui était en fait
une mine anti-char.
Pour moi, ça, c'est peut-être parce que j'ai pas connu cette époque-là, puis j'ai pas pu avoir d'informations de première main, on va dire. Moi, ça, c'était du folklore, c'était de l'invention, de la petite magie qu'on avait saupoudrée, et de constater que non, c'est vraiment...
Il y avait des cigares explosifs, des crayons qui envoyaient de la fumée, des bouts de poison.
J'ai trouvé ça jubilatoire. Comme, oh mon Dieu, c'était vrai. Il y avait vraiment tous ces accessoires et on est allé chercher ces gens qui étaient mal vus, finalement.
Des faussaires. Il fallait faire des fausses cartes d'identité.
J'ai adoré ça.
Il fallait qu'elle ait l'air vraie. Les vêtements, il ne faut pas aller là avec des vêtements britanniques, tu comprends? Il fallait que les vêtements soient des reproductions, des tissus qui avaient cours en France, etc. Fait, bon, alors, il y avait toute une armée. Alors, on prenait des gens qui travaillaient au théâtre, qui faisaient des costumes, qui faisaient des accessoires, puis on leur demandait... Parce que, dans le fond, c'était une grosse pièce de théâtre aussi, là. Il y a quelque chose...
Mais ça, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Puis je pense pas qu'un film aurait permis d'exploiter, entre autres, cette facette-là de la même façon. Donc peut-être, certainement, le livre nous sert mieux pour raconter une histoire qui a autant de couches aussi. Non seulement les détails de la formation de Guy Bielaire qui apprend le combat au corps à corps.
Oui, comment tuer un homme sans faire de bruit.
Oui, ça c'est...
En deux leçons.
Son âge a dû jouer aussi du fait, on disait qu'il était beaucoup plus âgé que la plupart des autres soldats.
Une quarantaine d'années, oui.
Ce qui a dû aider sans doute à ce qu'il soit beaucoup plus posé, peut-être, que des jeunes soldats qui auraient eu une envie d'aventure et de combat et d'actes frivoles.
Oui, sans doute. On le surnommait grand-papa dans son régiment parce qu'il détonnait du reste des autres
à cause
de son âge. Ben, oui, exactement.
Parce que je J'ose penser qu'un peu d'âge en cette matière était certainement une qualité, finalement.
Oui, sûrement. Sans doute parce que, ne serait-ce que parce qu'à l'époque, les jeunes hommes, ils devaient normalement être au combat, au front, etc. Donc, si t'étais un jeune homme et tu circulais, tu pouvais être suspect. D'ailleurs, ce service d'espionnage britannique, là, le service des opérations spéciales, a été le premier à avoir des femmes au combat. Justement parce que les femmes étaient moins suspectées. On ne suspecterait pas une femme d'être un espion ou un combattant.
Elle ne devait pas être à la guerre. C'était normal qu'elle circule.
Oui, les femmes étaient infirmières à la guerre ou dactylo dans les bureaux, mais pas proches du combat. Donc, Bieler, lui, était assisté d'une technicienne de communication. Elle avait un radio émetteur, puis elle communiquait par morse des messages
Mariette.
À Londres. C'est Mariette et Yolande Bickman. C'était une jeune femme, c'est ça. Donc, ça a été le début des femmes au combat. Et puis, les techniciens radio, ceux qui émettaient des messages en morse, là, c'était souvent le point faible, le maillon faible du réseau, parce que les Allemands avaient trouvé des moyens de repérer les émissions radio où ils avaient des camions, les goniots qu'ils appelaient, et qui réussissaient à capter quand il y avait des émissions de messages vers Londres, et puis ils réussissaient à trouver où étaient situés les postes émetteurs. C'est d'ailleurs comme ça que Bieler et son réseau a été capturé.
Donc, c'était un... Non seulement on acceptait de confier cette tâche-là à des femmes, mais c'était vraiment des tâches très risquées.
Oui, oui. Être pianiste, c'est comme ça qu'on appelait ça. C'était le petit nom des opérateurs radio. Être pianiste, c'était une opération très, très dangereuse.
Le livre, finalement, va non seulement intéresser les Québécois, mais qui risquent aussi de piquer la curiosité d'un public en France, voire en Allemagne, qui connaissent peut-être mieux le nom de Guy Bieler que nous.
En Allemagne, je ne pense pas qu'il soit connu, mais dans le nord de la France, dans la région de Saint-Quentin, sans doute, oui. Parce que sa mémoire est encore inscrite là-bas. Je te disais, il y a trois rues à son nom dans trois villes ou villages. Là. C'est un personnage important là-bas. C'est un personnage d'un moment qui a été marquant.
Mais peut-être que, qui sait, le livre va faire en sorte qu'une rue à Montréal sera rebaptisée rue du commandant Guy Bieler.
Qui sait?
Qui sait?
Je serais bien restée au café tout le reste de la journée pour écouter Guy Gendron me parler de son travail et de ses projets à venir. Mais j'ai bien d'autres manuscrits à lire et plusieurs projets d'édition qui m'attendent sur mon bureau. Si vous avez envie de découvrir une histoire palpitante, de plonger dans une biographie qui se dévore comme un roman, je vous suggère fortement de vous procurer Le meilleur des hommes, l'histoire du plus grand espion canadien, la biographie de Guy Bieler que Guy Gendron a fait paraître récemment chez Québec Amérique. Vous pouvez acheter votre exemplaire en librairie ou le commander sur notre site web à québec-amérique.com. Chez l'éditeur est une production des éditions Québec Amérique réalisée par Philippe Collard. Notre thème musical est une composition de David Sestai. Je vous invite à passer nous voir au Café littéraire chez l'éditeur, situé au 7240 rue Saint-Hubert, à Montréal. Si vous aimez notre balado, laissez-nous une note ou un commentaire sur iTunes. Je m'appelle Marie-Noëlle Gagnon et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Chez l'éditeur.